Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
La vie d'un Rive de légende, de sa naissance du bout des doigts à aujourd'hui, c'est l'Historive sur Rock et Folk Radio.
Un riff, c'est comme du sang. Si c'est bien fait, ça peut rapporter des millions de plaquettes. Oui, alors je sais que pour le pognon, on dit des plaques. Mais figurez-vous que pour faire une plaque, eh bien, il faut bien des petites plaquettes. Bah oui, c'est logique. Aujourd'hui, on va se faire un historif sain qui rentre totalement dans la recommandation du gouvernement de manger 5 fruits et légumes par jour. Non, je ne suis pas vendu, je m'inquiète pour votre summer body, c'est tout. M'engueulez pas, bah oui. On va se régaler d'une bonne fraise signée par les Beatles. Voici Strawberry Field Forever. Et en plus, c'est la saison, ça tombe bien.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field.
Sorti le 13 février 1967, ce bonbon rouge ne se trouve pas, je répète, ne se trouve pas sur Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Non mais je sais que vous savez, ne vous inquiétez pas, je suis au courant, vous avez énormément de connaissances. C'est juste au cas où, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit oubli, aucun jugement. Ce morceau est donc sorti seulement en single, le fameux double face A, promenons-nous dans la petite vie de John Lennon enfant, Strawberry Field Forever, suivi de Penny Lane. C'est un petit parcours, quoi, voilà, pour tous les fans de randonnée. Parce que c'est là toute la jeunesse de ces deux chansons. Penny Lane est un quartier de Liverpool dans lequel John a vécu jusqu'à ses 4 ans avec sa mère Julia et son très absent papa Alf. On rappelle qu'il travaillait dans la marine et qu'il avait la fâcheuse habitude de faire des petits séjours en prison. Donc forcément, ça peut empiéter sur le temps papa fiston, vous voyez ? Non, parce que c'est chronophage, la prison. Bah si, quand on y est, on passe un petit peu de temps dedans, le temps qu'on sorte des papiers, on met le jogging, ça bouffe énormément de temps. Bref, on passe vite sur le fait que Julia a remplacé Alf, que John a été trimballé de tente en tente, on parle de tata, hein, pas de camping, qu'Alf a été à deux doigts de kidnapper John et de l'emmener avec lui en Nouvelle-Zélande et qu'heureusement que Mimi a fini par s'interposer pour récupérer le petit gamin myope mais sans lunettes. John a donc suivi Mimi dans sa maison située dans la banlieue de Liverpool, à Woolton plus précisément. Le but était de donner à John un cadre de vie un petit peu plus stable, ce qui n'était pas dur, une vraie autorité et plein de petits chats. Ouais, j'avoue que le dernier argument est forcément le plus puissant. Non mais je veux dire, tu peux pas lutter, les trucs ils sont là, ils font mais t'es forcément hypnotisé. La maison de Mimi, tiens, est d'ailleurs depuis classée au Natural Trust, une association qui a pour but de préserver les monuments non reconnus comme tels. C'est donc dans cet environnement plutôt cool que John va tranquillement se développer, apprendre la musique et porter des pantalons cigarettes en cachette, parce que Mimi ne voulait pas. À côté de la maison, il y avait un endroit qui fascinait totalement John, une énorme demeure avec un très grand portail en métal rouge par lequel il regardait tous les enfants jouer, des enfants sans parents parce que Strawberry Field est un orphelinat. Ça a aussi été un endroit de jeu pour John, notamment avec son meilleur pote, le fameux Pete Shelton. Il assistait également à des garden parties dans lesquelles il passait des heures et des heures à regarder les brass bands, une de ses premières rencontres avec la musique, donc fatalement, ça devait bien ressortir un jour.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever.
Alors, on aurait pu penser que pour écrire cette chanson, John était revenu sur place, s'était roulé dans l'herbe, avait caressé le portail en regardant dans le vide, mais sans aucune ambiguïté. Bref, se reconnecter avec ce lieu magique. Eh bah, pas du tout. C'est dans un endroit beaucoup plus chaud et sablonneux que Liverpool que cette chanson a pris forme. Nous sommes en septembre 1966. John se trouve sur le tournage de How I Won the War, une comédie satirique de Richard Lester dans lequel John a carrément le second rôle. Il y a aussi Mick Dillon dedans, mais comme personne le connaît, on s'en fout un petit peu quoi. Le tournage se passe à Almeria en Espagne et c'est dans la ville du miroir que John va composer cette chanson un petit peu tristouille. En même temps, on sort tout juste du scandale de Jésus, qui n'est pas du tout la suite de la Passion du Christ, je préfère le préciser. Son groupe a arrêté les tournées et une de ses amies les plus proches vient de mourir. Gros stuff donc. Il s'est donc replongé dans ses souvenirs heureux, à savoir l'enfance, l'innocence, le tout début des Beatles. Et au final, tout devait le ramener là. C'est d'ailleurs marrant parce que Paul a fait fait exactement pareil au même moment avec Penny Lane, alors que les gars n'étaient pas ensemble. Ça, c'est de la connexion de meilleurs copains. Alors après, quand on analyse les paroles, c'est plus un voyage didactique de la psyché de John sous LSD qu'une vraie visite de l'orphelinat. La première version de la chanson ne faisait même pas référence à ce fameux prêt des fraises. On se promène plus, si vous voulez, dans une sorte de mélange de croyances hindoues avec un petit peu de maya par-dessus, saupoudré de Lewis Carroll. Bref, un beau bordel bien psyché. C'est plus tard que John a poussé le portail rouge. Et c'est pour ça, au final, qu'il n'arrive que dans le troisième couplet. Troisième couplet écrit, hein. Non, parce que je vous vois arriver avec des fourches. Oui, j'ai regardé sur la coccinelle.net, il en parle directement. Non. C'est tout simplement parce que le troisième couplet écrit est devenu le premier couplet chanté. Bah oui, ça s'est passé comme ça.
Always know, sometimes think it's me. But you know, I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong.
Après l'écriture et l'apparition du Mellotron, qui est d'ailleurs maintenant la propriété de Trent Reznor de Nine Inch Nails, hein, c'est lui qui a acheté le Mellotron qui a servi à l'enregistrement, il a fallu l'accoucher, l'enregistrer, et autant dire que mettre sur bande It's Not Bad, qui était le titre de travail de cette chanson, a été plus que compliqué. Tout commence le 24 novembre 1966 dans le studio 2 des studios EMI. 45 heures d'enregistrement cumulés ont été nécessaires pour en arriver à bout, répartis sur 3 semaines. Ça fait 3 heures de record par jour. Oui, parce qu'on part du principe qu'ils ne travaillent pas les week-ends, donc ça fait que 5 jours par semaine. Ah bah attendez les gars, on fait pas ce qu'on veut, il y a des syndicats. C'est énorme, en tout cas pour un morceau de seulement 4 minutes. Lennon et ses potes ont tenté beaucoup d'arrangements, des tonalités différentes, des tempos plus ou moins lents. Bref, ça tâtonnait. Au final, figurez-vous qu'aucune des prises ne convenait. Du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on repart de zéro? Est-ce qu'on change encore? Bah non, on demande à George Martin d'utiliser ses super pouvoirs de producteur. Super producteur! Ouais, Marvel, c'est quand tu veux. Je suis là avec le personnage et avec le générique. Il a donc dû assembler la prise 7 à la prise 26. Problème de taille, elle n'était ni dans le même tempo, ni dans la même tonalité. Non, parce que sinon, c'est beaucoup trop simple. Tu mets un bout de scotch et c'est réglé. On rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas les Pro Tools et ces plugs qui transforment tout le monde en prod de génie. Là, c'est carrément fait tout au ciseau et à la machine à bande. Bon, on va pas se mentir, on va pas détailler ici sa méthode parce que ça a été long, fastidieux et surtout que j'ai pas compris grand chose quoi. Mais en tout cas, sachez qu'il est allé jusqu'à couper des mots pour les coller ailleurs. C'est totalement dingue vu le matériel qu'il avait à sa disposition. Au final, John avait raison. Quand on laisse le bébé à George, au final, tout se passe bien. La preuve qu'il avait confiance en lui, il s'est barré du studio en gueulant « Hey George, tu peux arranger ça ?» Bon, il est chié quand même. En tout cas, cette petite prouesse technologique s'entend au bout d'une minute de chanson. On y voit quasiment que du feu, mais sachez que ces deux chansons n'ont rien à voir normalement à la base. Ces deux prises en tout cas.
Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real.
Est-ce que vous l'avez senti? Est-ce que vous l'avez entendu? Non! Parce que George Martin est un producteur de génie. Allez, on va maintenant s'intéresser aux ventes de cette chanson et autant vous dire qu'à sa sortie, le titre n'a pas été un raz-de-marée puisque pour la première fois depuis 1963, les Beatles n'ont pas placé leur single au sommet des charts. Mais la consécration est ailleurs. La chanson a permis de faire du lieu un véritable rendez-vous. Les gens se sont déplacés en nombre pour voir ce mystérieux orphelinat. C'est presque devenu une marque. Si bien que les portes ont carrément été volés en 2000. Et après une énorme recherche, la personne qui avait commis ce larcin les a rendus un petit peu penauds. John a également contribué à sa conservation. Il a donné jusqu'à sa mort régulièrement de l'argent, ce qu'a également fait Yoko. Oui, Yoko qui fait des trucs bien, je sais, ça peut choquer, donc ne mettez pas ça entre toutes les oreilles. Le lieu a quand même fermé malheureusement en 2005, mais a réouvert pour le public. C'était en 2019, tout le monde pouvait se presser pour justement visiter ce lieu mythique. Côté reprise, puisque maintenant c'est l'heure des reprises, elles le sont un petit peu moins mythiques, hein, autant vous dire, mais on peut noter celle de Candy Flip, qui là pour le coup était beaucoup plus ecstasy que LSD. Voilà, on est bien dans le chamallow de la rave de la fin des années 80. Philippe de Gruy l'a reprise, lui, en version whisky et on parle en chuchotant parce qu'il ne faut pas déranger les musiciens. Quel enchaînement d'accords. Pardon ? J'arrive pas à entendre. Tu me dis quoi? Tu veux sautiller? Oh, d'accord, bah tu l'auras voulu. Hein. Si tu veux sauter partout, voici la version de Los Fabulous Cadillac avec au chant quand même des Bihari.
Living is easy with eyes closed.
Enfin, quand même, c'est là que tu te dis qu'heureusement, John Lennon n'a pas grandi en face d'un supermarché. Hein, non, parce que Carrefour Market Forever, je sais pas, ça claque un petit peu moins. Puis ça coûte cher. T'as vu le prix des palmitos ?
Retrouvez l'Historif en podcast sur rockandfolk.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.